Non, parce qu'il est très informé, veut en savoir toujours davantage. Alors, il faut que je parle un peu à ces deux auditoires ensemble. Et de toute façon, les idées dont je m'en vais d'abord parler, quelques idées dont je m'en vais parler tout à l'heure, ce sont de ces idées qui, fatalement, reviennent périodiquement dans l'esprit du chercheur praticien d'astrologie. Ceux qui vivent dans la psychologie expérimentale, qui sont vraiment dans le jus ou dans la chair vive des thèmes humains, nous sommes bien obligés d'avoir une philosophie de l'astrologie. Et nous sommes bien obligés d'avoir si vous voulez, une science de la mystique. On vient à l'astrologie de tous les bords. Quelques-uns sont revenus de la religion hébraïque, traditionnelle pour eux, peut-être pas vivante. Certains sont venus parce qu'ils sont sortis du catholicisme, d'autres du protestantisme, d'autres de l'athéisme. Peu importe, l'astrologie est une science, une connaissance de l'âme humaine. C'est une connaissance extrêmement syntaxée, très saturnienne. C'est une structure mathématique de l'âme et du monde. Par conséquent, et c'est une dynamique en même temps. Par conséquent, c'est une science, et donc essentiellement objective. Il faut que l'on se plie à ce qu'elle établit comme une preuve irréfutable, quelles que soient les conceptions religieuses, les coutumes morale auxquelles on s'est habitué par l'inertie des années, de l'éducation. L'astrologie, évidemment, nous donne une démonstration absolument objective de la réalité de ce qu'on appelle l'esprit, de l'immortalité, des valeurs individuelles, des valeurs spirituelles de l'individu. Elle donne un sens à la vie. Elle encadre toutes les philosophies. Car il n'y a pas une philosophie au monde qui n'aurait pas sa formule astrologique. Quelle que soit la religion mondiale, quel que soit son auteur, et surtout quel que soit son climat, son climat, c'est un thème astrologique, archétypique. Si on veut, les enfants, c'est un thème astrologique. Vous avez certainement entendu parler, ici à Paris, d'une, je n'aime pas le mot secte, d'un groupe religieux protestant d'origine américaine qui s'appelle le groupe de la science chrétienne. On l'appelle en Amérique Christian Science. Dont l'église mère se trouve à Boston, fondée par une personnalité assez originale et très dynamique, qui fut Mme Mary Baker Eddy aussi à peu près trois quarts de siècle. Eh bien, j'en parle parce que j'ai fréquenté un certain temps dans les premières années d'Amérique pas mal de gens qui en faisaient partie. Je me suis intéressé plus tard, lorsque je suis venu à l'astrologie, à regarder des thèmes de ces personnes, et j'ai constaté une invariante qui est celle-ci, pour être un scientiste chrétien à la mode courante, attention, à la mode courante, il faut avoir Jupiter carré Vénus. C'est une forme d'optimisme sentimental. Quand on a ça, on se dit la vie, c'est un programme de résolution, ça doit l'être. Les gens qui ont ça dans leur tête naissent avec l'idée, la vie, c'est du plaisir, c'est une vaste rigolade et patente, alors quel est le programme des réjouissances pour moi? Ils sont absolument effarés quand ils découvrent que le programme est plutôt maigre. Ils trouvent ça tout naturel que la vie pour eux soit parfaitement bonne, elle soit généreuse. Et ils sont tellement absorbés dans la satisfaction de s'y complaire qu'ils ne voient pas ce qui se passe chez leurs voisins. Lorsque dans un scientiste, vous avez cet aspect-là, vous avez le type moyen, qui est un type assez médiocre. Car en somme, il faut le dire, c'est un aspect assez médiocre, le Jupiter qui arrive. Pris seul, et pas soutenu par ailleurs, par d'autres aspects plus transcendants, c'est assez banal. C'est assez banal. C'est cet optimisme tout particulier et qui a une certaine forme de crétinisme transcendantal que l'on retrouve parmi les scientifiques chrétiens. Je retrouve cette veine de crétinisme dans toutes les personnes qui ont cet aspect-là. Si j'insiste, le trouve. Par contre, intéressant de constater que les gens qui ont Neptune qui arrive, alors ceux-là, quand ils sont venus à la science chrétienne parce qu'ils cherchaient Dieu, ils cherchaient une réalité transcendante, alors ceux-là, venus d'abord à la science chrétienne, la lâche à leur tour et la dépasse. Tous ceux parmi les membres de l'Église que j'ai très bien connus, j'ai vécu 2 ans à Boston pour mes péchés, alors j'en sais quelque chose. Au lendemain de la Première Guerre, j'ai beaucoup fréquenté ces milieux-là, ils m'intéressaient à l'époque beaucoup. Moi-même, je cherchais, étant un pèlerin d'un absolu, mon Dieu, j'ai aussi été par là. Et j'ai constaté que ceux des membres qui avaient dépassé cette organisation, qui ne pouvaient plus y rester, et qui avaient continué leur route au-delà et en dehors d'elle, c'était Neptune qui arrivait. Les autres étaient parfaitement satisfaits de ce qu'ils avaient. Car, pour le bien le dire, dans son ensemble, c'est une église dont la médiocrité intellectuelle, et je regrette de dire morale, est assez remarquable. Voilà. Ce serait bien la première fois que j'aurais tapé sur ce qu'on appelle une secte. Ce n'est pas dans mes habitudes. Pourquoi ai-je parlé de ça? Oui, c'est le climat de tous les fondateurs de religions et de toutes les religions. Nous en avons toujours la forme de la trouver. Il suffit d'avoir la compétence pour la trouver. Elle est là. Rome et son Église a une forme de la trouver. En ce moment-ci, je ne l'ai pas dans la tête. Le calvinisme en a une, le luthérianisme en a une autre, à peine variante du calvinisme. Mais on retrouvera toujours la formule. Il suffit d'y chercher et il est suffisant de bien connaître le sujet dont on s'occupe aussi, évidemment. Alors, ceci dit, nous chercheurs d'astrologie, en astrologie, nous avons quelque chose. Nous prenons, il va de soi, que plus vous serez au courant des grandes psychologies. Plus vous connaîtrez la texture de l'être humain, dont on sait si peu de choses, mon Dieu, c'est un continent inconnu. Et c'est ce qu'on oublie. On part avec ce que l'on sait. On est sûr que c'est du solide ce que l'on sait. Et on édifie des édifices métaphysiques formidables là-dessus, mais ce n'est qu'un château de cartes. Car les bases ne sont pas solides. Et lorsque nous entrons dans l'astrologie, mon Dieu, à quel point on s'en rend compte, je viendrai là-dessus dans une démonstration tout à l'heure sur la hiérarchie planétaire. Oui. Étudiez la mystique, les meilleurs, les plus classiques. Prenez un livre aussi simple dans son genre, aussi populaire à son heure que celui du professeur William James de l'Université Harvard de Boston, sur les variétés de l'expérience religieuse. Un livre qui s'est traduit dans toutes les langues. Ça a été un classique de toutes les écoles de théologie du monde entier, il y a environ, il y a 30 ans, il y a 40 ans, exactement 40 ans, c'est un monsieur Franck Abaudet que j'ai connu dans mon essor, dans mon enfance. Qui l'a traduit en français. Bien, prenez ça. C'est très peu connu dans votre génération actuellement. C'est réédité en France aujourd'hui. C'est une très belle chose. Les variétés de l'expérience religieuse montrent qu'elles sont essentiellement les mêmes dans toutes les religions. Et bien non, des cas et des cas et des cas. Eh bien, si vous voulez savoir ce que c'est que Neptune, vous voulez savoir ce que c'est que Uranus et Mercure et Jupiter, pour ne parler que de ces trois êtres, de ces trois entités-là, voilà des ouvrages qui sont, qui étoffront vos concepts, vos idées et aussi votre vocabulaire. Voyez, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'une jeune Française héroïque, juive de naissance, qui s'appelle ou s'appelait Simone Weil. Je n'ai rien lu d'elle directement, je n'ai lu que des revues d'elle. Mais enfin, voilà une nature qui mettait vraiment tout son être dans ses convictions, même si elle changeait de conditions. Mais au moins, elle s'y mettait tout entière. Alors justement, la magazine Time, magazine hebdomadaire américain Time, qui donne toutes les semaines une page sur la religion, nous donne une revue du livre qui s'appelle Les Notebooks, carnet de notes, de Simone Weil, traduit en français maintenant pour la première fois. Traduit en anglais, pardon, pour la première fois. Alors voilà, Simone Weil m'intrigue naturellement, et cette revue m'intriguait beaucoup. Et j'ai trouvé cette phrase qui correspondait justement à une question que vous reconnaîtrez tous dans votre propre esprit, qui a été combien de fois dans la mienne, ça revient obligatoirement, périodiquement, et la voici. Je traduis de l'anglais, cursivement. La croyance que Dieu a créé l'homme à sa propre image était apparemment étrangère à Simone Weil, qui ne pouvait pas voir pourquoi Dieu, qui est l'infini, devrait créer quelque chose qui serait en dehors de lui-même et qui ne serait pas lui-même. C'est seulement, elle a réussi à surmonter cette contradiction radicale uniquement par la route qui mène à la croix du Christ, au Christ crucifié. Par le Christ crucifié, Simone Weil, comment dirais-je, sûrement, passe au-dessus, ne résout pas, c'est sûrement, la contradiction fondamentale pour l'intellect, l'intelligence qui s'est posé la question de la création, l'audace qui s'est posé la question de la création, dans ces termes. Eh bien, nous sommes tous, les astrologues sont aussi préoccupés de la question que n'importe qui. Ils le sont d'ailleurs beaucoup plus que la plupart des gens. Ils le sont beaucoup plus que la plupart des théologiens, car l'astrologie nous met en face des réalités métaphysiques tous les jours. Et elle nous met en face de ces réalités, non pas simplement sur le plan de la dimension humaine, mais la dimension cosmique. Les astres. D'abord les astres, ensuite l'homme. Quand on a raconté l'histoire de l'homme, en général, dans les doctrines occidentales, on croit avoir tout. Mais en astrologie, on n'a fait que commencer. Nous sommes bien plus ambitieux que ça. Mais nous savons que les réalités se trouvent ailleurs. Bien que, et c'est une question de méthode que je crois essentielle, une question de méthode dans laquelle tant d'astrologues eux-mêmes s'égarent comme tant de métaphysiciens, nous aurions bien moins de contradictions dans nos recherches et dans nos définitions astrologiques. Nous aurions bien moins en métaphysique. Et en religion, si l'on voulait commencer par le commencement, à savoir la connaissance psychologique de l'homme, sur le terrain de l'expérience vécue, dans cette introspection de la structure humaine. Évidemment, avec les tuyaux, si j'ose employer cette expression, si merveilleux que nous donne la sagesse astrologique, le thème astrologique, c'est 3 à 12 bras. Avec tout le reste, il est évident qu'avec cette espèce de radiographie de l'âme, nous arrivons à être obligés à faire face à des choses et à soulever des couvercles ou des surfaces insoupçonnées dans le fond même de l'être humain. Mais si nous commençons par l'homme, si nous ne nous projetons pas toujours en dehors de nous-mêmes avec le peu que nous savons sur le monde, et qui ne peut être qu'une fonction de ce que nous savons sur nous-mêmes, surtout quand nous parlons d'un monde qui n'est pas un monde tangible, mais un monde intangible. Il faut bien se rendre compte que l'homme projette son ignorance dans l'extérieur. Il projette ce qu'il croit qu'il sait, mais il projette surtout ce qu'il ne sait pas. Et que sa foi dans un invisible, justement, qui ne serait plus nécessaire d'avoir une foi, c'était visible. La foi dans l'invisible a une formule qui a sa genèse dans la structure psychologique de l'individu. Ça, c'est tellement fondamental, c'est là la raison de la relativité des définitions. L'entendement humain, l'intelligence humaine, prise comme telle, elle ne peut s'occuper que de relations. C'est la fonction courante de l'intelligence. L'intelligence comme telle est un organe de relation entre. Par conséquent, dès que nous entrons dans des questions aussi graves que celles que se posait Simone Weil sur la création, l'homme créé à l'image de Dieu, etc. Dès que nous entrons dans le concept de la création, c'est un concept presque impensable, qui n'est d'ailleurs, qui n'entre en jeu dans notre esprit que par une sorte d'analogie à celui de la paternité, de la maternité, de l'enfant, l'engendrement, autrement dit. Ce n'est pas le ex nihilo, ni c'est l'ex nihilo, ce n'est pas de rien quelque chose, n'est-ce pas? On aura des gens qui pensent aussi à ça, mais toujours est-il qu'il est très certain que les vérités essentielles ne sont pas communicables. Et que celui qui a dit que la parole c'est le premier mensonge de l'homme n'avait pas tort. Les vérités essentielles sont incommunicables. La vie elle-même, nous la sommes. Nous sommes la vie, nous ne pouvons pas la définir. Quand nous nous mettons à définir, nous allons découvrir que ce que nous définissions, ce sont des relations que la vie a établies avec, disons, la vie, ou avec d'autres choses, ou avec des objets. C'est la relation dont s'occupe l'intelligence. Or, il est évident que le rapport que Dieu doit avoir avec son univers, le rapport est insaisissable pour l'entendement de l'homme, parce que les deux termes de l'équation ne sont pas égaux. D'une part Dieu, d'autre part la création. L'équation n'est pas une équation pour laquelle l'intelligence humaine est compétente. Il faut se rendre compte de ça. Et quand on sait ce que c'est que Mercure, c'est-à-dire l'intelligence humaine, les conditions de la création, de la formation de l'intelligence humaine, quand on sait tout l'historique de cette créature que nous sommes, et donc la fragilité de son entendement, et la fonction économique de l'intelligence humaine, la valeur économique de l'idée dans le cosmos général, on se rend très bien compte que l'homme n'est pas habilité dans sa sainte intelligence pour brasser des conceptions métaphysiques aussi énormes que celles-là. Voilà pourquoi j'amène ça momentanément ce soir, parce que j'y ai pensé très souvent. Mais surtout, ayant en somme dépassé cette préoccupation de l'absolu, qui est toujours dangereuse pour un métaphysicien, toujours dangereuse, parce que là, il ne peut avoir quelque sorte de solution que par une grâce divine. Il ne la trouvera jamais par l'exercice volontaire discursif de son intellect, jamais. C'est un terrain pour lui interdit. il faut croître à un palier auquel les vérités métaphysiques qui touchent en France ce qu'on appelle l'absolu et l'infini puissent être touchées par nous sans que nous en devenions fous ou détraqués d'une façon ou d'une autre. Mais ce que j'entends, c'est ceci. Nous avons cette fameuse, nous avons le Sagittaire, nous avons le Neptune, nous avons le Jupiter, le maître du Sagittaire, nous avons ces axes du monde, nous avons des courants, nous avons un courant transcendant, c'est-à-dire un courant qui vient d'un monde transcendant. Ne parlons, pour l'amour du ciel, ne parlons plus jamais de l'absolu dans un autre. On est très dangereux. Le démon chez nous aime beaucoup nous faire brasser ce mot-là. Ça, c'est une magnifique façon de nous faire nager dans le néant en moins de rien. Puisque pour l'intellect de l'homme, quand le mot absolu se présente à son esprit, ça devient tout de suite l'informe. Or, ça, c'est impensable pour eux. Mais c'est, toutes ces choses sont tellement évidentes, nous n'allons pas insister là-dessus. Un instant, ce que je veux dire, c'est ceci. Que Weil, Simone Weil, avait parfaitement raison dans le fond de sa pensée. Il y a une solution, une seule voie par laquelle nous sortons de ce dilemme de la création et du créateur. Une seule façon, c'est de sentir la croix qui est le grand symbole et la loi de rapport des plans divers des mondes en passant des plus hauts au plus bas, que c'est toujours l'escalier, l'échelle de la croix, et que le courant descendant, représenté ici précisément par Christ sur la croix, un courant christique, peu importe la valeur historique de la personne de Jésus, ça n'est pas indispensable à la conception, mais à la conception de ces choses. Il y a un courant que nous connaissons tous. Un courant, et que surtout nous autres astrologues ont réussi en quelque sorte, non pas à canaliser tant que, mais à réussir à arpenter en quelque sorte la canalisation en nous-mêmes. Par l'astrologie, nous qualitativons. Nous donnons une qualité plus précise au courant que nous expérimentons avant de l'avoir analysé astrologiquement, bien entendu. Et nous prévoyons déjà les voies dans lesquelles il va passer, parce que nous en avons déjà quelques-unes des mathématiques. Donc nous voyons ce courant, et nous voyons que c'est un courant qui vient d'en haut. C'est un courant qui vient du plus grand que nous. C'est un courant qui vient de l'entier, dont nous ne sommes que les parties. Et notre partie est un entier pour des parties plus petites que nous. Nous voyons tout le temps cette division du pain dans la Sainte Cène, la rupture du bloc en des morceaux. Nous voyons qu'un univers divin dont nous ne savons rien intellectuellement, dont nous ne pouvons avoir que des pressentiments, rien de plus. Sauf quelques rares élus qui d'ailleurs eux-mêmes n'iront pas beaucoup plus loin que ça. Car s'ils allaient plus loin que ça, ils deviendraient incommunicables. Il n'y a plus de mots. Les mots sont prêts. Il y a justement que nous savons qu'il y a une transcendance et qu'il ne nous intéresse pas de savoir de quoi elle est faite. Nous ne la cataloguons pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. Ça ne m'intéresse plus. Ce que je veux, ce que je cherche, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est sentir le courant. Je sais que ça vient d'en haut. C'est tout ce qu'il me faut. Je vois la vie du courant. J'en vois le volume du courant. J'en vois la vitesse. Et je sais où ce courant veut aller. C'est pourquoi il est là. C'est tout ce qu'il me faut. Pour me sentir dans un univers qui n'a pas complètement perdu tout sens. Pour comprendre pourquoi j'ai le corps que j'ai, pourquoi je suis dans le monde, la terre, qui est ce qu'elle est, et ainsi de suite. Je sais que ce courant existe. Je sais que je peux compter sur ta source. Je sais que cette source elle-même, puisque ce courant vient à moi, que par conséquent, ce courant se divise tout le temps. Il convertit l'heure en minute, il convertit la minute en seconde. C'est l'inversion du polos, c'est l'inversion du holisme, qui est la conversion de la seconde en minute et de la minute en heure. Mais l'inverse, c'est vrai. Nous avons la division du temps, ou la division de l'unité. Cette division de l'unité, par le grand principe holistique, c'est-à-dire par le grand principe qui par lequel seul on comprendra vraiment l'astrologie. Ce grand principe de passer des entiers aux parties qui eux-mêmes sont des entiers pour des parties plus petites qu'elles, cette série de hiérarchies, de domaines successifs et réguliers de l'être, quand je vois ça à l'œil, j'ai compris ce qu'on appelle le sang du Christ versé pour les hommes. Je comprends très bien. C'est très simple à comprendre. J'ai compris que ce sang est versé tous les jours et toutes les heures. Que c'est cela seul dont nous pouvons avoir expérimentalement la signification pour ce souffle divin. Et que c'est en présence d'un acte pareil que nous pouvons conclure, que nous osons conclure à l'existence non seulement d'une transcendance, mais d'une transcendance pour laquelle nous ne sommes pas du tout indifférents. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai lu l'autre jour, comment dirais-je, tout par hasard, cette remarque sur Simone Weil dans l'hebdomadaire américain. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose sur laquelle il faudrait s'arrêter un moment dans une de ces conférences de Paris. C'est ce que je viens de faire. Or, pour finir, ce courant descend. Alors maintenant, nous sommes en astrologie, comme en psychologie. Il descend. Et où va-t-il? Où descend-il, ce courant? Jusqu'où veut-il aller, ce courant? Eh bien, il va techniquement dans nos thèmes, il va jusqu'à notre planète Pluton. C'est jusqu'à Pluton que ce sens sera versé, que ce dénombrement de l'entier va avoir lieu. Il s'arrêtera à notre Pluton. Pour ce qui est de notre économie propre, individuelle, il s'arrêtera à notre Pluton. Mais il ne s'arrêtera jamais en deçà de notre Pluton. Christ est descendu aux enfers. C'est l'enfer dans le Père. Par conséquent, ce courant va descendre jusqu'à notre enfer. Et voilà pourquoi il descend, c'est qu'il y a notre enfer. Il n'y a pas seulement notre personnalité courante, l'un dans l'autre assez banal, n'est-ce pas, assez civilisé, assez traitable, dans le train-train des jours, mais il y a en nous, et nous sommes un être apocalyptique. Une apocalypse qui ne se connaît pas, et qui ne vient qu'à certaines heures, et bien des gens vivent et meurent sans avoir jamais connu l'apocalypse qu'ils portent en eux. Mais il est là. Et entre autres choses, le Pluton du thème l'indiquera bien. Alors le drame de la vie de chacun, c'est que précisément il y a un courant qui vient d'un monde transcendant, qui coule à travers nous selon les formules d'une mathématique qu'on peut maintenant très bien repérer, et qui descend vers le bas, le côté le plus bas de notre nature, vers ce qui en nous est moins que nous-mêmes, qui va dans le domaine de l'inconscient de notre nature, dans ce continent inconnu, qui n'est pas une transcendance, mais l'inverse d'une transcendance. C'est un inconscient, alors là, qui n'est pas superconscient, mais qui est vraiment infraconscient. C'est ce qu'on appellera le monde de la bête. Et nous portons tous à deux à des degrés divers. Et précisément, parce que c'est ce monde-là, nous ne le connaissons pas intellectuellement. Il nous est presque aussi inconnu qu'un monde divin. Presque aussi inconnu qu'un monde divin. Presque. Et alors, maintenant, je ferai plaisir à bien de mes collègues, à plusieurs de mes collègues, en disant que Pluton nous rend cet immense service, ce service absolument unique que lui seul peut rendre, c'est de repérer exactement le foyer de la bête. De repérer exactement ce qui est le but de toute l'œuvre sacrificielle, si on veut l'appeler ainsi, de la descente d'un monde spirituel à nous et par nous à ce pôle inférieur de l'être. Nous sommes tout le temps entre ces deux pôles, nous en sentons le courant. Et alors, vous sentez venir en vous l'inspiration. Elle prend différentes formes selon vos besoins du moment. Elle prend différentes formes parce qu'il y a toujours une loi de compensation qui est en jeu. Toute inspiration est compensatoire, subconsciemment en tout cas. Elle répond à un besoin que l'individu peut avoir ignoré, oublié. Mais elle est là. Mais dans certains cas où l'inspiration est tout particulièrement, comment dirais-je, extraordinairement